Stéphane Breitwieser n'est pas vraiment un voleur d'art. Du moins, c'est ce qu'il pense, bien qu'il soit peut-être le plus brillant et le plus prolifique voleur d'art de tous les temps. Il ne nie pas avoir volé les pièces qui se trouvent dans son antre secret, la plupart avec l'aide d'Anne-Catherine Kleinklaus. Il sait exactement ce qu'il a fait. Il peut raconter le déroulé de certains de ses crimes jusqu'au nombre précis de pas qu'il lui a fallu faire pour exfiltrer une œuvre par la sortie du musée. Son problème, ce sont les autres voleurs d'art. Ils le dégoûtent, tous autant qu'ils sont, y compris les plus doués d'entre eux. Comme ces deux hommes déguisés en policiers qui se sont présentés au musée Isabella Stewart Gardner de Boston la nuit de la Saint-Patrick 1990. Après s'être fait ouvrir la porte par les deux gardiens de nuit, ils les ont très vite maîtrisés, leur ont bandé la bouche et les yeux avec du ruban adhésif, puis les ont menottés à des tuyaux au sous-sol. Un casse nocturne et violent est une insulte à l'idée que se fait Breitwieser du vol d'une œuvre d'art, qui, selon lui, devrait toujours être réalisée en plein jour, avec une discrétion raffinée, sans jamais faire peur à personne. Mais ce n'est pas pour ça qu'il méprise le cambriolage du Gardner. C'est à cause de la suite. Les voleurs sont remontés à l'étage et ont décroché du mur la pièce la plus fabuleuse du musée, un Rembrandt de 1633, le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée. Après quoi, un des deux hommes a planté un couteau dans la toile. Rien que de l'imaginer lui est insupportable. La lame qui glisse le long du bord, faisant gicler des écailles de peinture et craquer les fils de la toile, découpant les 5,76 mètres du pourtour jusqu'à ce que le tableau, détaché de son châssis et de son cadre, se recroqueville sur lui-même dans des affres d'agonie, craquelant et fendillant encore plus la peinture. Puis les voleurs sont passés à un autre Rembrandt et ont récidivé. Ce n'est pas comme ça que travaille Breitwieser. Si dépravée que puisse être la morale d'un criminel, découper ou casser délibérément un tableau devrait toujours être immoral. Un cadre, bien entendu, peut rendre une œuvre difficile à manier et donc à voler. Par conséquent, après avoir décroché un tableau du mur, Breitwieser le retourne et défait soigneusement au dos les attaches ou les clous afin de le séparer de son cadre, qu'il abandonne sur place. S'il n'a pas le temps pour une telle délicatesse, il préfère renoncer. Et même s'il a le temps, il est conscient que l'œuvre, désormais aussi vulnérable qu'un nouveau-né, doit être protégée contre tout risque d'égratignure, de gondolage, de pliure et contre la poussière. Les cambrioleurs du Gardner, du point de vue de Breitwieser, sont des sauvages. Ils ont vandalisé gratuitement des œuvres de Rembrandt. Rembrandt, le virtuose de l'émotion humaine et de la lumière divine. Les auteurs de ce crime n'ont toujours pas été retrouvés, pas plus que les 13 pièces qu'ils ont emportées, d'une valeur d'environ 500 millions d'euros, mais même si elles le sont un jour, elles ne seront plus jamais intègres. Comme la majorité des voleurs d'art, les cambrioleurs du Gardner n'avaient en réalité aucun goût pour l'art. Ils n'ont fait qu'enlaidir le monde. La seule motivation de Breitwieser, insiste-t-il, est au contraire de s'entourer de beauté, de s'en repaître. Très peu de voleurs d'art mentionnent l'esthétique comme un de leurs mobiles, mais Breitwieser a répété cela avec obstination, au cours de dizaines d'heures d'interviews dans les médias, lors desquelles il n'a jamais essayé de cacher sa culpabilité, décrivant ses crimes et ses sensations autant présents, avec une précision quasi chirurgicale. Il est même parfois allé plus loin dans son souci d'exactitude. Interrogé sur les détails du vol d'Adam et Ève, Breitwieser a enfilé un déguisement succinct, une casquette de baseball enfoncée sur le front et une fausse paire de lunettes, avant de retourner sur le lieu du crime pour mieux se souvenir de chaque décision critique, de chaque vis enlevée, de chaque pose contemplative. Il a fait la même chose pour d'autres coups. Des centaines de rapports de police permettent de confirmer ses dires dans les grandes lignes. Il ne vole que des œuvres qui le touchent personnellement, et ce sont rarement celles qui ont le plus de valeur dans le musée. Il n'éprouve ensuite aucun remords, car, selon sa vision déviante, les musées sont des prisons pour l'art. Souvent bondés et bruyants, avec des heures d'ouverture limitées et des sièges inconfortables, ils n'offrent aucun endroit paisible pour méditer ou s'allonger. les groupes de visites guidées, armés de perches à selfie, semblent se traîner d'une salle à l'autre comme des forçats enchaînés. Tout ce qu'on aurait envie de faire en présence d'une œuvre envoûtante est interdit dans un musée, dit Breitwieser. Son premier conseil serait celui-ci, détendre, bien calé dans un canapé ou dans un fauteuil. Siroter un verre si on veut, grignoter quelque chose, pouvoir tendre la main et caresser l'œuvre quand ça nous chante. Là, on commencerait à voir l'art sous un jour nouveau. Prenez la statuette en ivoire d'Adam et Ève. Il y a une profusion de symboles condensés dans cette œuvre qui viennent s'ajouter à une remarquable régularité de proportions et au délicat équilibre des postures. En tout cas, c'est ce que dirait un guide conférencier, chacun de ces mots réduisant davantage vos chances de ressentir la moindre émotion brute. Maintenant, volez donc cette sculpture, suivez les conseils de Breitwieser et regardez mieux. Le bras gauche d'Adam passe autour des épaules d'Ève, tandis que son autre main est posée sur elle. Le premier couple de l'histoire, tout juste créé par Dieu, semble parfait. Ils sont musclés, minces, en bonne santé, avec des cheveux magnifiques et des lèvres charnues. Ève incline le cou d'un air faussement timide. Ils sont nus. On voit clairement le pénis d'Adam, apparemment circoncis. Ce n'est pas un problème de le fixer. Ève a la main droite dans le dos d'Adam, l'attirant vers elle, et la main gauche sur son pubis, les doigts recourbés vers l'intérieur. Tant d'œuvres d'art sont excitantes sexuellement, ajoute Breitwieser, que vous aurez aussi sans doute envie d'installer un lit à proximité, peut-être un lit à baldaquin pour le moment où votre partenaire sera là et où vous serez tous les deux d'humeur. Quand Breitwieser n'est pas au lit, il bichonne tel un majordome les trésors de ces deux pièces secrètes, surveillant la température et l'humidité, la lumière et la poussière. Tous sont conservés dans de meilleures conditions, assure-t-il, que dans leur musée d'origine. Le mettre dans le même sac que les sauvages est cruel et injuste. Plutôt que comme un voleur d'art, Breitwieser préfère qu'on le considère comme un collectionneur aux méthodes d'acquisition peu orthodoxes. Ou encore mieux, il aimerait qu'on le voie comme un libérateur d'art. Et Anne-Catherine, alors ? Ses sentiments sont plus difficiles à cerner. Elle ne souhaite pas répondre aux journalistes. Cependant, quelques personnes ayant passé du temps avec elle, notamment des avocats, des connaissances personnelles et des enquêteurs, ont eu l'occasion de lui parler longuement. Des extraits des expertises psychologiques que Breitwieser et elle ont subies ont été rendus publics, ainsi que les retranscriptions de leurs interrogatoires et des dépositions des témoins. Ont été également conservées certaines vidéos du couple et une partie de leur correspondance. Il y a enfin les images de vidéosurveillance des musées, les articles de presse, les déclarations des policiers, des plaignants et de plusieurs personnalités du monde de l'art. Chacun de ces éléments a été étudié pour permettre une reconstitution précise des vols, même si les détails les plus intimes de l'histoire d'amour et de crime du couple proviennent uniquement de Breitwieser. Il pourrait être instructif d'entendre Anne-Catherine livrer sa propre version des faits, mais cela la mettrait bien souvent devant un choix cornélien, s'accuser elle-même, avec de potentielles répercussions judiciaires, ou mentir ouvertement. Face à cette alternative, son silence paraît sage. Ce qui est évident, malgré ses prises de parole limitées, est qu'Anne-Catherine ne se décrirait pas comme une libératrice d'art, pas plus qu'elle ne proposerait d'autres justifications moralement tordues à leur crime. Des deux, c'est la plus pragmatique et la plus rationnelle. Elle a les pieds sur terre et lui, la tête dans les nuages. Breitwieser allume l'étincelle qui met les réacteurs en marche, tandis qu'elle sait garder le lest nécessaire pour les ramener à bon port. Anne-Catherine, disent les gens à qui elle s'est confiée, voit leur butin d'œuvres volées avec une ambivalence prudente. Sublime, certes, mais néanmoins impur. Breitwieser, lui, a la conscience tranquille. À ses yeux, la beauté est la seule monnaie qui écoure, toujours enrichissante quelle qu'en soit la source. La personne qui possède le plus de beauté est donc la plus riche. Il s'est parfois considéré lui-même comme une des plus grandes fortunes au monde.